Bonjour. L'attaque terroriste d'hier à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne s'est dénouée dans la soirée. Le détenu radicalisé qui a poignardé deux surveillants a été interpellé. Les précisions du procureur antiterroriste de Paris, Rémi Heitz, au début de ce journal, puis Laurélie Carive va nous expliquer le rôle qu'a joué la compagne et complice présumée du détenu, une femme, qui a été tuée lors de l'assaut du raid hier soir. Dans un instant également, reportage dans les Yvelines, 10 jours après la fuite d'hydrocarbures qui a touché 4 à 7 hectares de champs et de rivières. L'heure est à la dépollution. Enfin, dans le cadre du grand débat, les Beaux-Arts de Paris ont ouvert leurs portes hier pour un débat sur le rôle de la culture pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Explication de Caroline Pommès à la fin de ce journal. Le détenu qui a poignardé hier matin deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne a donc été maîtrisé hier soir par les policiers du RAID. Attaque terroriste, a précisé dès hier midi la garde des Sceaux. Michael Chiolo purgeait une peine de 30 ans et se serait radicalisé en prison. Par ailleurs, sa compagne et complice présumée avec laquelle il s'est retranché pendant près de 9 heures a été tuée pendant l'assaut. Le parquet antiterroriste de Paris a été saisi et le procureur de la République, Rémi Heitz, a détaillé les faits hier soir.
Il est ressorti très vite des premiers témoignages que le détenu, en se jetant sur les surveillants pénitentiaires, avait crié « Allah Akbar », qu'il disait vouloir venger Shérif Chekat, individu mis en cause dans l'attentat commis à Strasbourg le 11 décembre 2018, et qu'il indiquait être porteur d'une ceinture d'explosifs, être prêt à s'en servir. Très rapidement, les équipes du RAID étaient dépêchées sur place. Après une tentative de négociation et des sommations d'usage, le RAID intervenait, les personnes ayant fait connaître leur refus de se rendre, criant notamment « Allah Akbar » à plusieurs reprises. À l'issue de l'assaut, le détenu a été interpellé. Il présente des blessures sans grande gravité. Sa compagne, elle, est décédée des suites de ces blessures.
Des propos recueillis par Delphine Evenou. Le procureur Rémi Heitz a par ailleurs indiqué que 3 personnes avaient été placées en garde à vue. Alors quel rôle exactement a joué la compagne de Michael Chiolo, sa complice présumée? Laurélie Carive, vous avez eu de premières informations.
D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est elle qui aurait fait entrer l'arme au sein de la prison. Selon nos informations, quand elle se présente à l'entrée de l'établissement pénitentiaire pour retrouver son compagnon, cette femme, âgée de 34 ans, totalement inconnue des services de police, porte un long voile islamique et affiche un ventre rond. Les enquêteurs la soupçonnent donc d'avoir en fait caché sous ses vêtements amples au moins un couteau en céramique, céramique qui ne fait pas sonner les portiques de sécurité. Hier matin, vers 9h45, par l'interphone de l'unité de vie familiale où il vient de passer la nuit, le couple évoque un malaise et réclame l'intervention du personnel pénitentiaire. À leur arrivée, les deux surveillants reçoivent des coups de couteau dans un déchaînement de violence au cri d'Allahu Akbar. Après l'assaut, un gilet d'explosifs factice a été retrouvé. Selon le procureur de la République de Paris, c'est pour venger Shérif Chekat, l'auteur de l'attaque djihadiste de Strasbourg, que Michael Chiolo est passé à l'acte hier. Converti à l'islam en 2010, fiché, il n'était pas placé à l'isolement ni au sein du quartier pour détenus radicalisés.
Les précisions de Laurélie Carive. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est rendue dans le département de l'Orne hier soir. Elle a diligenté une inspection à la prison de Condé-sur-Sarthe, l'un des deux établissements français les plus sécurisés de France. Quant aux deux surveillants agressés, ils sont toujours hospitalisés ce matin. Leurs jours ne sont pas en danger. Les syndicats de la pénitentiaire appellent par ailleurs à la grève avec un blocage total de tous les établissements à partir d'aujourd'hui. Dans les Yvelines, près d'1 million de litres de pétrole ont été déversés dans la nature la semaine dernière, conséquence de la fuite d'un pipeline près d'Autouillé au sud de Mantes-la-Jolie. Une réunion d'information au sujet de la dépollution a été organisée hier à destination des habitants avec le préfet et les représentants de Total qui exploitent les raffineries du secteur. C'est un reportage de Roméo Van Maastricht.
Une centaine de personnes ont assisté à cette réunion d'information. Elle avait pour but de rassurer les riverains. La principale inquiétude, la pollution des sols. Pour les nettoyer, un procédé de stockage des terres est mis en place. Aliénor Salin est responsable d'exploitation chez Total.
La terre, en fait, on l'enlève et ensuite on la traite. Soit elle contient pas trop de pétrole et dans ce cas-là, on la traite avec des bactéries qui vont manger le pétrole. Soit on doit l'incinérer. Donc c'est envoyé en centre d'incinération, c'est ce qu'on appelle traitement thermique. On estime à un peu moins de 20 000 m3 de terre qui devra être remuée mais pas traitée et 30 000 qui devront être traitées.
L'entreprise l'assure, les taux de potabilité des eaux polluées sont inférieurs au seuil réglementaire. Pourtant, des forages d'eau potable situés plus loin ont pris le relais de la distribution d'eau. Quant aux inhalations de pétrole respirées par les habitants, elles ne seraient pas toxiques sur le court terme. Dans le même temps, plusieurs cadavres d'animaux ont été retrouvés, deux canards et deux poules d'eau ainsi que plusieurs kilos de petits poissons. Mais Florence Poncet, une chercheuse mandatée par l'État et experte en pollution accidentelle, tempère, la biodiversité n'est pas vraiment impactée.
Il y a des milieux qui sont alimentés par des versants pas du tout concernés par la pollution. Il y a beaucoup d'oiseaux présents qui peuvent trouver refuge dans cette partie-là. Donc il y en a qui se font piéger parce qu'il y a des petites accumulations qui sont descendues. On en voit beaucoup voler qui ne sont pas du tout touchés.
Le délai d'excavation et de réparation des terres devrait durer 4 mois. La société Total, elle, renouvelle une nouvelle fois ses excuses.
Le reportage de Roméo Van Maastricht. En Italie, c'est la mesure phare du mouvement 5 étoiles. Les personnes sans travail et sans revenu peuvent déposer à partir d'aujourd'hui un dossier pour obtenir le revenu de citoyenneté. Une réforme qui prévoit le versement sous condition de ressources d'une allocation pouvant aller de 780 euros par mois pour une personne seule jusqu'à 1280 euros pour une famille avec 3 enfants. Carlos Ghosn, emprisonné depuis 3 mois au Japon pour des malversations financières, vient de payer sa caution de 8 millions d'euros. La libération de l'ancien dirigeant de Nissan et de Renault est donc imminente. Les précisions à suivre de Catherine Dutu et de notre correspondant à Tokyo dans le journal de 7h. En Algérie, plusieurs milliers d'étudiants ont de nouveau défilé hier dans la capitale et dans plusieurs villes du pays contre la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika, tandis que le général Salah, le chef de l'état-major de l'armée, a mis en garde les protestataires. Il rappelle que l'armée est la garante de la sécurité et de la stabilité en faisant référence aux années de guerre civile. Washington a par ailleurs réagi. Les États-Unis appellent les autorités d'Alger à respecter le droit de manifester. La culture, grand absent des thématiques du débat national lancé par le gouvernement en janvier dernier dans la foulée de la crise des Gilets jaunes. C'est pourquoi Beaux-Arts Magazine et la Fondation du Patrimoine organisent leur propre plateforme participative. 3 thèmes de réflexion proposés, la culture pour tous, l'éducation artistique et culturelle et le patrimoine. Lancé il y a 2 semaines, 2000 propositions environ ont déjà été déposées. Puis hier, un premier débat physique a été organisé dans la cour vitrée des Beaux-Arts de Paris. Le compte-rendu est signé Caroline Pommès.
Président d'associations culturelles, jeunes artistes, étudiants en art, ils ont tous le même discours. Les musées, les galeries, les cinémas doivent être des lieux de partage.
C'est l'art pour la population. C'est cette idée de rencontre. Aider les jeunes artistes peut-être, ou aider les artistes tout court d'ailleurs, pourquoi pas que les jeunes, à rencontrer les populations.
Ça a été souvent vu comme des églises, les musées, comme des lieux saints, sacro-saints, et je pense qu'aujourd'hui ça doit être des lieux de débat.
Bonsoir. Si les gilets jaunes ne se sentent pas intéressés particulièrement par la culture, c'est justement parce qu'on se situe toujours dans cette espèce de dynamique d'élitiste, de culture élitiste malgré tout, et effectivement les institutions écrasent cette vigueur artistique. Laissez la place aux jeunes, laissez la place aux femmes, laissez la place aux noirs, aux chinois, aux étrangers. Aux... Et ça, c'est vraiment important par rapport à la dynamique.
Même si Clara Borgen est applaudie, la jeune vidéaste préfère quitter la salle.
Là, on se rendait un peu compte que le débat n'est tenu que par les hommes blancs de plus de 50 ans, les fameux. Et que ça ne nous convient pas, et que pour moi la culture c'est pas ça.
Mais dans la salle, le débat continue entre les acteurs du monde culturel, comme sur internet où les organisateurs ont reçu plus de 2000 propositions. Ils en choisiront une 50aine parmi les plus débattues, et en tête pour l'instant...
C'est la culture en milieu urbain.
Frédéric Jousset est président du groupe Beaux-Arts.
Comment est-ce qu'on peut dédier un peu plus d'espace à l'art, un petit peu moins peut-être à la publicité, faire percoler la culture dans toutes les villes de France.
Des propositions qui seront envoyées au gouvernement à la mi-avril. D'ici là, la plateforme reste ouverte encore 10 jours. Toutes les idées sont les bienvenues, même les plus saugrenues, comme celle de cet internaute qui souhaiterait rebaptiser l'aéroport Paris-Orly en Orly Johnny Hallyday.
Un reportage de Caroline Pommès. La météo, deux départements sont en alerte orange pour des vents violents. Il s'agit de la Loire et du Rhône. Ce matin, le ciel est couvert avec des averses sur une grande moitié ouest. Ciel plus lumineux en Alsace, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. Et les températures ce matin, c'est doux. 11 à Lille, 12 à Paris, 13 à Strasbourg, 15 à Lyon et jusqu'à 18 à Perpignan et Bordeaux.